J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'un homme étrange, comme ils disent. C'est l'histoire d'un homme qui rêve qu'il est un roi, et grâce à son rêve, grâce à sa liberté, grâce à sa légèreté, grâce à sa profondeur, tant d'autres que lui se rapprochent de leur royauté, se saisissent de leur couronne et se mettent à danser avec lui, à danser et à chanter en défilant dans la rue. Ce sont les nouveaux chariots de feu, et dans ce royaume-là, la tristesse se change en joie et la honte en fierté. Lui, il balance volontiers sa couronne pour apparaître perruqué comme les rois d'antan. Qu'est-ce qui lui plaît tant dans toutes ces perruques? Est-ce d'apparaître comme un autre ou de se révéler soudain à soi? Est-ce de jouer à être roi pour le devenir vraiment ou simplement de jouer car au fond, rien n'est grave? À force de se rêver roi, il s'est retrouvé à représenter le royaume de France à l'Eurovision et ça n'a pas plu à tout le monde. Tous les rageux de France se sont levés, les haters de toute région se sont unis dans une même détestation pour déverser sur lui leur torrent de haine. Mais lui, la haine, ce n'est pas trop son truc. Le ressentiment, les passions tristes, la bile qui fatigue et aigrit, il la leur laisse. Lui, le nombril à l'air, entre deux chansons, entre deux tours de danse, perruqué, costumé, il ose leur demander « Mais votre haine, au fond, n'est-ce pas encore un peu de l'amour? Votre haine, au fond, n'est-ce pas que vous m'aimez un peu trop? Que vous êtes un peu trop fan ?» Aimer trop, il connaît, mais l'outrance est peut-être chez lui une forme de pudeur, l'extravagance comme une délicatesse, et dans son sens de la posture, il représente peut-être davantage que la communauté LGBT+, mais bien, en effet, quelque chose de l'esprit français. Le sérieux des revendications, ce sérieux-là, mais sans esprit de sérieux, l'amour de la liberté et des différences, mais sans tomber dans la crispation identitaire. C'est quelque chose de cette liberté, et je crois, de cet esprit français, qui lui permet de faire un duo avec un rappeur viriliste à peine guéri de son homophobie, ou de casser les codes en plein prime time de Danse avec les stars. Vous l'avez reconnu, je crois, sous sa perruque et sa couronne, Bilal Hassani est avec nous ce matin du 31, sous le soleil de Platon, à l'affiche des reines du drame, dans son premier grand rôle au cinéma, et dans un rôle à contre-emploi, un rôle de vipère méchante, il vient nous parler également de son dernier album sorti en juin, Glitter Sleaze Utopia, et en sa compagnie, nous allons essayer de répondre à cette question, qu'est-ce qui nous rend vraiment fiers? Être fier, est-ce nécessairement être fier de soi?
Sous le soleil de Platon... Charles Pépin sur France Inter.
I am me, and I know I will always be. Je suis free, oui, j'invente ma vie. Ne me demandez pas qui je suis. Moi, je suis le même depuis tout petit. Et malgré les regards, les avis, je pleure, je sors et je ris. To be like you, je suis pas dans les codes, ça dérange beaucoup. At the end of the day, you cannot change me, boo. I love, laisse-moi m'envoler. I'm not rich, but I'm shining bright. I can't see my kingdom now. Quand je rêve, je suis un roi.
Bonjour Bilal Hassani.
Bonjour.
Alors qu'est-ce que ça vous fait de replonger comme ça il y a 5 ans je crois?
5 ans oui maintenant.
Ce roi, ce royaume.
C'est étrange, c'est toujours étrange de réécouter cette prestation parce que je m'en souviens très bien. Il y a beaucoup de prestations dont je me souviens moins, mais celle-ci on l'oublie difficilement.
C'est intéressant d'ailleurs de se dire que parfois des choses restent gravées comme ça dans la mémoire, peut-être... D'après les neurosciences, c'est quand même l'émotion, en fait, qui fait qu'on se souvient beaucoup plus que la réflexion, beaucoup plus que les enjeux théoriques. C'est l'émotion qui fixe dans la mémoire.
Ah !
Ouais.
Ça, je me suis toujours dit que justement, quand j'étais trop habité, je me souvenais moins bien.
Mais là pour autant, qu'est-ce qui a pu vous marquer comme ça ? Est-ce que c'est de représenter peut-être la France ?
Je pense, oui, bien sûr, de représenter le pays. Je pense que c'est l'échelle à laquelle la prestation est...
Combien de téléspectateurs, d'ailleurs ?
C'est à peu près 200 millions.
200 millions, c'est quand même beaucoup.
C'est beaucoup, beaucoup de gens. Ouais.
Voilà. Et 200 millions de gens à qui vous dites « ne me demandez pas à qui je suis
oui. ».
Et pourtant, vous dites aussi dans la même chanson « mais je suis celui que je suis depuis tout petit ». Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu une contradiction ?
Il y a énormément de contradictions dans ce morceau. Ce morceau, c'est vraiment une page blanche à 23 heures qui se remplit en 15 minutes.
Ouais. Vous l'avez écrit très vite ?
Très vite, oui. C'était les derniers délais. En fait, j'avais peut-être quelques heures pour envoyer ma chanson pour du coup, le concours de présélection à l'Eurovision. Donc voilà, j'ai été un peu prévenu dernier, donc j'ai dû aller très vite. Et c'est pour ça que ce morceau est sorti ainsi. Et je pense aussi qu'il connecte aussi bien parce qu'il y a toutes ces vérités, on va dire, parallèles qui existent.
Mais c'est vous qui aviez demandé à participer ?
Oui.
Ah ouais, et comment ça se passe, le processus ? On prend son téléphone, on dit je voudrais être candidat.
Non. Ouais. Non. À ce moment-là, je venais de signer un contrat dans un label indépendant parce que j'avais passé des années sur Internet à poster des vidéos. Donc, j'avais amassé assez d'abonnés pour pouvoir être perçu par une maison de disques qui m'a signé. Et ensuite, voilà, ils m'ont proposé de candidater.
Ah oui,
et je leur ai dit oui, j'aimerais beaucoup. On a fait des chansons et on a pu participer à un concours de présélection puis à l'Eurovision.
Alors, Bilal Hassani, on ne va pas parler simplement de ce qu'il y a il y a 5 ans. On va évidemment parler de votre dernier film, Les Reines du Drame. C'est votre premier grand rôle. D'ailleurs, vous êtes un petit peu méchant, vous avez un rôle de méchant.
Oui.
On va aussi parler de votre dernier album sorti en juin. Mais avant ça, je voudrais qu'on thématise un peu cette émission sur la question du roi. Puisque c'est ça le sujet de la chanson, est-ce que le roi en soi, c'est soi vraiment ? Est-ce que le roi, c'est de trouver son moi ? Ou est-ce que finalement, le roi en soi, ça peut pas être à un moment une posture, un rôle, quelque chose de moins profond ?
Je pense qu'au départ, c'était plus une posture. Enfin, c'était un personnage même complètement quand j'étais enfant. En fait, quand j'étais tout petit, j'avais une sorte d'ami imaginaire qui était cette figure que j'arrivais même pas du tout à identifier comme moi. Mais qui était au-dessus et qui veillait sur moi et en fait qui ensuite qui s'est manifesté de plusieurs façons hein. Parfois c'était le langage en fait j'allais discuter d'une manière où j'allais argumenter différemment quand j'allais être dans une position un petit peu délicate dans une conversation et j'allais l'invoquer en fait pour pouvoir parler mieux, pour pouvoir parler sans être blessé et donc ça part d'une sorte de bouclier qui devient un peu le soi. Plus on grandit peut-être, parce que moi, ensuite, d'un seul coup, on a un peu mergé. Je pense qu'on a vraiment mergé au moment de la perruque, mais
ah
ouais,
bon,
il y a eu ce truc-là. Bah parce que cette figure, elle était plus féminine, je crois, en moi, qui m'aidait, qui me conseillait, etc. Ou en tout cas, voilà, j'imaginais une longue chevelure et c'était quelque chose que je pouvais pas réaliser moi-même naturellement. Et donc,
parce que je précise quand même pour les auditeurs, parce qu'on n'est pas filmé, hein, que là, vous avez les cheveux très courts.
Très courts,
rien du tout, il n'y a rien de blond, rien de lisse, rien, pas très féminin comme coiffure, à vrai dire.
Elles sont à la maison.
Ça comme ça.
Voilà. Oui, si on peut dire ça comme ça, oui.
Mais ça veut dire qu'au moment de mettre la perruque, ça fait pour vous surgir quelque chose de vous-même.
Ça fait surgir quelque chose de moi-même, voilà, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment connecté, le sorte d'idée de moi et le moi, parce que j'ai atteint, je pense, un stade de ma vie où je suis accordé avec cet idéal, on va dire. Que je me faisais quand j'étais enfant.
Parce que d'ailleurs, vous serez bientôt à la Maison de la Radio dans l'Hyper Weekend Festival pour une heure de piano-voix intimiste où justement, peut-être, quelque chose de ce moi presque qui joue moins, qui a moins besoin de posture ou de perruque pour apparaître, pourra se donner à entendre.
Oui, je pense qu'il y aura toujours des cheveux sur ma tête quand je serai sur scène. Mais c'est vrai que pour, du coup, l'Affreuse, qui est la création qu'on présente à l'Hyper Weekend Festival.
En janvier, je crois.
En janvier prochain, le 26. On présente des morceaux, du coup, qui ont été écrits avec Martin Dust et Lilian Mille, qui sont... qui remettent beaucoup en question cette posture-là, sa place, à quel point elle me sert ou dessert. C'est assez... Oui, voilà, on est allé très loin, très dans les confins un peu de mon âme pour trouver réponse à des questions. Et voilà, le spectacle ouvrira avec une question et on verra si on y trouve la
et
réponse.
Et on peut pas connaître la question ? Pas encore.
Ah non, on ne peut pas encore connaître la question.
Alors, je voudrais vous lire quelque chose et avoir votre réaction. On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. On ne change pas, on ne cache qu'un instant de soi.
On ne cache qu'un instant de soi. C'est hyper fort, en vrai. Je ne sais pas à quel niveau je m'identifie complètement à ce qui se dit, mais Mais oui, si on s'habille avec les costumes d'un autre, est-ce qu'on... Qui porte quoi, en fait ? Est-ce que nous, on n'invoque pas de nous-mêmes dans la tenue de l'autre ?
Ouais. Alors c'était Céline Dion, hein, les paroles de la chanson on ne change pas, mais par exemple que vous mettez des perruques, alors il y a deux types de perruques, soit c'est synthétique, soit en fait c'est les cheveux d'un autre, à vrai dire.
C'est des cheveux humains, moi, la plupart.
Ouais, c'est des cheveux humains, donc vous mettez des cheveux de quelqu'un d'autre, et c'est une manière de devenir soi. Alors, on va clarifier la problématique philosophique. Pour moi, il y a deux grandes façons de penser le moi. Et après, en fait, l'idée, c'est aussi de questionner la fierté. Vous êtes devenu, peut-être d'ailleurs, ce n'était pas votre souhait au début, mais vous l'êtes devenu une des figures principales de la communauté LGBTQI+. Et puis après, vous avez représenté la France, donc il y a beaucoup de fierté. Et on pourrait se dire, la fierté, c'est la fierté d'être soi. Mais le problème que ça pose, c'est que pour que ce soit possible, il faut que le moi existe.
Ouais.
Autrement, je ne peux pas être fier d'être moi si le moi est une illusion. Et donc, je vais la faire courte, mais il y a deux grands courants de philosophie. Il y a ceux qui pensent que le moi existe, par exemple Descartes ou Platon. Quand Descartes dit « je pense donc je suis », il pense que le moi existe. Mm-hmm. Et visiblement, Céline Dion aussi. Hein. Quand elle dit « on ne change pas, on ne cache qu'un instant de soi », c'est platonicien, donc on est sous le soleil de Platon, c'est cartésien. Et puis il y a les autres. Moi, je préfère les autres. Hein. Pascal, Nietzsche, Sartre, des gens qui disent « mais en fait, le moi... on ne sait pas trop ce que c'est, quoi. On joue à être, on est multiple, on est changeant, on montre un visage de soi, puis un autre. Et au fond, ce qui fait que la vie continue et que c'est une quête, c'est qu'on ne trouve jamais vraiment ce moi. Mmh. Voilà, et vous êtes dans quel camp ?
Je ne saurais pas me positionner, parce que je pense que que ça varie selon les jours, les humeurs. Il y a des moments où j'ai envie de croire à un moi ancré qui décide... à ma place, et des traits, des fonctions et tout qui sont voilà propres à moi, mais aussi à d'autres moments j'aime bien complètement m'émanciper de ces idées-là. Oui, je pense que je suis en ce moment plus proche de Nietzsche.
Ouais, donc d'une sorte de flottement où il y a des masques et finalement on prend un masque puis un autre et puis si on enlève tous les masques on tombe sur quoi ?
Oui, c'est ça, mais je sais pas sur quoi on tombe. Moi je suis dans ça en ce moment, je crois, cette question-là. Tous les matins. Et c'est l'une des grosses questions de l'affreuse, en fait, du spectacle qu'on va bientôt présenter. C'est aussi ce truc de... J'ai beaucoup parlé, je me suis beaucoup positionné, j'ai aussi positionné ma fierté, comme on en parle bien aujourd'hui, pour beaucoup. Et en fait, il y a eu un moment où je me suis rendu compte de... En vue de mon positionnement, je tenais un discours qui allait dans un sens, mais est-ce que tous les matins, quand je me réveillais, j'étais en accord avec ce que j'avais dit la veille ? Peut-être pas. Donc, qui a raison ? Est-ce que c'est le moi qui s'exprime ? Est-ce que c'est...
Parce que parfois...
Le moi qui sait pas.
Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes senti à l'étroit dans cette façon dont vous représentiez une communauté ?
Oui. À plein de fois.
Ouais.
Bien sûr. Bah parce que quand on essaie de, on va dire, casser un petit peu les règles binaires de genre en disant, voilà, moi, quand je mets du maquillage, ça ne veut pas dire que je suis une fille. Et qu'ensuite, plus tard, je me retrouve face à mon thérapeute à lui dire, est-ce que je ne suis pas une fille ? Et bien, à ce moment-là, on rentre un peu dans le sens des questions des idées en fait qu'on est en train de contrer.
Ouais.
Et donc c'est dans ces moments-là que.
Mais finalement.
On peut se sentir un peu à l'étroit.
À l'étroit, ça va peut-être dire juste que ça déborde, mais c'est peut-être pas désagréable au fond de pas savoir exactement où on est.
Non, mais on apprend. Je pense que voilà, je suis arrivé à la moitié de ma vingtaine et j'ai l'impression que c'est une décennie qui est très comme ça,
ouais.
Où ça déborde beaucoup.
Si ça déborde de joie, c'est bien.
Oui, voilà, il y a des moments où c'est vraiment des débordements de joie. Donc je suis content de ne pas trop tout comprendre.
Ouais.
Là où peut-être qu'à 19 ans, quand mon exposition a commencé, j'avais l'impression qu'il fallait que je sache très bien qui j'étais et que je marque un peu...
Enfin, à 19 ans, même avant, quand vous avez gagné The Voice Kids, c'était à quel âge ?
J'en avais 14.
Ouais.
Et j'ai fait The Voice Kids, ouais.
Et donc là, ça fait 10 ans.
Oui.
On peut penser, si, je ne sais pas si le thérapeute que vous voyez, il est freudien, lacanien, ou de quel bord il est, mais en fait, l'idée de cette mouvance-là, c'est que de toute façon, on va pas identifier son vrai désir, enfin le désir qui compte le plus pour soi, on va dire son axe ou sa vérité intérieure, On va pas l'identifier non plus à 25 ans.
Non.
Mais on peut penser quand même que l'horizon, c'est peut-être d'arriver en milieu de vie et de se dire, voilà, peut-être pas, c'est peut-être pas qui je suis qui compte, mais c'est qu'est-ce qui compte pour moi ? Qu'est-ce que j'aspire à être ? Et peut-être parmi tous mes désirs, lequel est le plus grand, lequel est le plus important, quoi ? Qu'est-ce qui est essentiel, en fait ?
Mais je pense que je connais mon plus grand but. Et c'est comme ça que d'ailleurs je navigue un peu sur Terre. C'est avec cette polarise là-bas comme ça qui me guide un peu tout le temps.
Et votre but, il est artistique ?
Il est artistique, il l'a toujours été. En fait, j'ai l'impression que j'ai qu'une seule quête depuis que je suis bébé, parce que j'ai pas d'autres souvenirs que mes premiers souvenirs. Ils sont au conservatoire, donc j'ai toujours fait que ça. Et j'ai toujours eu envie que de ça, de monter sur scène, de chanter.
Ouais, parce que finalement, il y a eu des éléments qui ont pu peut-être éclipser,
totalement.
Au sens propre d'une étoile qu'on éclipse, notamment votre Insta, cette figure, cette célébrité finalement, elle a pu peut-être décentrer un peu le regard, et peut-être que maintenant, c'est le moment de vous recentrer sur l'art au sens propre, peut-être par-delà les images, par-delà les masques, par-delà les perruques.
Oui. Je pense que ce sera jamais par-delà les perruques, mais je pense que ce sera toujours avec. Mais je pense que je me concentre plus sur ce qui me fait le plus de bien, et c'est l'art.
Et bien justement, on va écouter un extrait de votre dernier album, Glitter, Sleaze, Utopia, et précisément Souvenir d'un été. C'était Bilal Hassani, Souvenir d'un été.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Bilal Hassani sur France Inter, sous le soleil de Platon, et nous parlons de la fierté d'être soi, mais encore faut-il que le moi existe. On en était là, cher Bilal, au moment où on vous a écouté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le titre de l'album Glitter Sleaze Utopia ?
Glitter Sleaze Utopia, donc c'est un projet un peu annexe, hein. C'est pas vraiment un album, j'avais appelé ça une mixtape, parce que...
C'est quoi la différence déjà ?
La différence, alors la mixtape, c'est généralement censé être un petit peu une suite de titres qui n'ont pas de réelle corrélation, les à côté des autres, mais la réalité est que ça reste un projet concept où il y a une histoire, il y a un fil, donc...
Donc c'est un album, quoi.
C'est quand même un peu un album. Mais pas proprement. En fait, d'accord. En tout cas, dans la démarche, c'est ça, c'est que j'y suis allé en me disant que j'étais pas en train de faire un album, et ça m'a permis un petit peu de créer cette bulle.
Ça vous a libéré, presque.
Ça m'a un peu libéré. C'est une bulle artistique qui m'a fait énormément de bien. Quand je dis Glitter Sleaze Utopia, c'est que voilà, il y a des paillettes, ça déborde de partout, on fait des bêtises, mais on vit dans un monde, on vit dans notre monde, on vit dans notre bulle, et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez, ressemblant un peu de ma génération. Je voyais dans mon groupe comment ça se passait, et c'est un petit peu ce qui en ressort.
Il y a aussi une référence à l'utopie dans plein de chansons, ce qui fait un peu un thème. Du coup, l'utopie, c'est quoi ?
L'utopie, c'est des toutes petites choses, en fait. Ouais. Et c'est ça ce que je raconte dans tout le projet. C'est des toutes petites choses. Là, quand je parle de souvenirs d'un été, je ne suis même pas en train de raconter des vacances à Bali. C'était un été de la joie que j'avais eu. On l'avait appelé comme ça.
L'été de la joie.
Ouais, avec des copains. Aujourd'hui, on l'appelle l'été de la joie. On n'était pas très contents, on n'était pas très heureux. On avait 17-18 ans et on allait au café tous les jours. Et on prenait notre allongé, on se prélassait pendant 4 heures à discuter de tout et de rien. Ça nous faisait énormément de bien. Et c'est de ça que je parle dans ce morceau-là. Il y a un autre morceau qui s'appelle Baby Botox, dessus on pourrait avoir l'impression que je parle de chirurgie plastique, mais c'est juste les deux mots l'un à côté de l'autre qui nous faisaient rire avec mon meilleur ami, et je voulais faire une ode à cette amitié-là. Donc c'est plein de toutes petites choses qu'on va trouver, où on va se rassurer en fait en y retournant. C'est cette série qu'on re-regarde pour la 17e fois parce qu'on est un peu anxieux dans notre quotidien. C'est ça la petite utopie pour
petite utopie, mais quand même avec des paillettes, hein.
Oui, ouais, toujours.
C'est là qu'on retrouve quelque chose d'une esthétique camp. Alors elle est présente dans tout votre parcours, sur votre Insta, dans beaucoup de vos apparitions médiatiques. Mm-hmm. Peut-être qu'il faut préciser pour les auditeurs ce que c'est que l'esthétique camp. Si vous voulez, je vais vous lire la définition qu'en donne Suzanne Sontag dans Notes on Camp en 1964, donc c'est une essayiste. Alors le camp, elle dit, il ne s'agit pas d'un mode naturel de sensibilité, si tant est qu'il en existe un. En effet, l'essence du camp est son amour du contre-nature, de l'artifice et de l'exagération. Le camp ne pense pas en termes de beauté, mais en termes de degré, d'artifice, de stylisation. Donc on peut parler d'outrance aussi. Le principe fondamental du camp, ça moi je suis pas trop d'accord, mais bon, c'est beau car c'est affreux. Moi je dirais c'est beau car c'est démesuré.
Démesuré, c'est mieux, oui. Ouais. Affreux, non. Après, affreux, c'est pas un gros mot. Moi je trouve qu'il y a quelque chose, il y a de la beauté dans ce qui est dit comme affreux.
Mais d'ailleurs, c'est l'affreuse, votre spectacle.
C'est l'affreuse, oui, c'est le spectacle.
À la maison de la radio.
Alors c'est ça peut être un ennemi et en fait tu décides d'en faire un allié quand tu traduis tout par le camp. Moi, j'ai toujours vécu ma vie comme ça. C'est-à-dire que j'ai trouvé refuge dans des choses qui sont artificielles, dans des esthétiques. Voilà, moi, Barbie, Lac des Cygnes, le film, quand j'étais petit, pour moi, c'était un chef-d'œuvre. Et je regardais ça comme. Et puis après, j'ai grandi et c'est devenu Greg Araki, et c'est devenu, devenu Mulholland Drive de David Lynch, et c'est devenu tout plein de choses. Mais j'ai toujours aimé quand c'était un peu plus. Quand c'était. On a appelé ça l'hyperpop ensuite, à partir des années 2010. Ou en tout cas, quand on écoute une chanson comme It's Okay to Cry de Sophie, qui est une chanson qui est intrinsèquement camp, parce que voilà, elle mélange toutes ces choses un peu synthétiques. Bah, cette chanson, elle me fait pleurer plus qu'un piano-voix de William Scheller, quoi.
En tout cas, on comprend pourquoi ça vous plaît, l'Hyper Weekend Festival.
Oui, voilà, exactement. Moi, j'adore ce mot, hyper. Quand Didier Varro est venu avec hyper, la première fois que j'ai pu participer à ce festival, j'ai trouvé ça génial.
Mais en même temps, si tout est hyper, si tout est plus, si tout est outrancier, est-ce qu'on perd pas la grâce de l'outrance, justement ? Si tout est intense, est-ce qu'on perd pas l'intensité, quoi ?
Mais est-ce que tout est intense ? Moi, j'ai l'impression que tout est intense d'une certaine façon, peut-être en ce moment, dans le climat global, mais que justement, on a besoin de pousser encore plus loin notre outrance pour...
Mais est-ce que plus égale plus, comme dit Léna Situation?
Moi, je pense que oui. Je pense que s'il y a quelqu'un qui a tout compris dans les personnes que je connais, c'est elle.
Ouais, mais expliquez-nous pour les gens comme moi qui sont pas sûrs de comprendre.
Bah, le plus égale plus, c'est le positif attire le positif. Et en réalité, c'est assez simple comme philosophie. C'est une bonne philosophie de vie, quoi. C'est se dire que si on va vers le bien arrive et... Et c'est ce qui se passe pour à peu près toutes les personnes que je connais qui vivent comme ça.
Oui, mais si on fait des maths, plus et plus, ça fait plus. Mais moins plus moins, ça fait plus aussi.
Oui, ça fait plus aussi. Mais moi, parfois, ça va un peu moins bien.
Mais vous voulez dire que...
J'essaie de trouver du plus dans mes petites utopies, ça va un peu mieux.
Oui, mais d'ailleurs, c'est ce que vous avez souvent apporté. Une forme de joie, même dans la revendication identitaire, ça fait du bien. Mais quand même, j'ai une petite objection. Enfin, je voudrais qu'on en parle. Mm-hmm. Est-ce que parfois, ce qui nous met dans le plus, c'est pas aussi de regarder le moins en face et de pas le fuir, de pas être dans l'évitement? Finalement, on n'a pas besoin aussi de se confronter à ce qui est un peu moins, quoi, à ce qui est un peu relâché, un peu fatigué, et pour trouver dans la lucidité avec laquelle on se tient face à l'abattement, quelque chose de joyeux, en fait.
Ah, mais absolument, je pense que je mène ma vie un peu comme ça, surtout dernièrement, mais il y a quelque chose de rassurant quand on n'a pas à découvrir le moins en nous, quoi. C'est-à-dire que quand ça tombe dessus, tout ce que tu retiens peut-être un petit peu, bah, ça fait un peu plus mal. Moi, je vis en accord parfait avec les différents moins et plus qui font le moi, peut-être.
Les différentes polarités, je ne sais pas comment on dit par rapport à une pile, le mot m'échappe, le plus, le moins.
Ouais.
Peut-être c'est les polarités, et peut-être que ce qui fait la vie aussi, c'est que les deux sont en relation, en fait.
Ah, mais carrément. Après, il faut juste trouver le bon degré d'intensité, parce que parfois, ça peut être un peu...
Ouais, il peut y avoir trop d'amplitude.
Voilà.
Alors Bilal Hassani, je décris ce qui se passe, ça vous a bien mis en forme cette chanson de France Gall.
J'adore.
C'est une influence importante pour vous ?
Très, très importante. France Gall venait dans l'école où j'étais en formation de comédie musicale quand j'étais ado pour faire auditionner son ensemble. C'était pour un spectacle qui s'appelle Résiste.
Ah ouais.
Je me rappelle que c'était une brève rencontre mais qui m'avait beaucoup marqué. Moi j'aime beaucoup son répertoire.
Vous avez quel âge ?
Maintenant ?
Non,
au moment où je l'ai vu, j'ai 13 ans quand je la rencontre.
Ah ouais, c'est dingue. Parce qu'il y a quelque chose dans d'autres de vos chansons où vous parlez à vos parents, papa, maman, je ne vous en veux pas, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à un autre titre de France Gall.
Si, maman, si maman, si, maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris.
Alors Bilal Hassani, on a entendu deux morceaux de France Gall, « Si maman si, résiste ». Ça me fait penser pas mal à certains de vos titres. Vous résistez à quoi le plus ? À quoi vous résistez le mieux ?
J'ai l'impression que je vis quand même souvent en force. Hein.
Ouais.
Donc du coup, je pense peut-être je résiste au courant, à l'époque aussi un petit peu, parce que mon but, ça n'a jamais été d'être... une sorte de phénomène peut-être de société, donc ça a toujours été quelque chose qui me contre lequel je me battais. Moi, je suis juste moi et donc c'est je résiste souvent contre le courant qui j'ai toujours l'impression est un petit peu en face de moi.
Vous semblez avoir bien résisté à la haine, hein.
Il y a
beaucoup de haters qui vous sont tombés dessus au moment de l'Eurovision notamment, et puis même pas seulement. D'où vient cette force? Alors, peut-être que je me trompe, que parfois vous avez été plus affecté que...
Oui, bien sûr que j'ai été affecté, mais je pense que...
Mais quand même
que...
pas trop par rapport à d'autres...
Non, en tout cas j'ai pas envie de montrer ça. C'est pas ce que je veux raconter. Je pense que le spectacle... c'est à mon métier, moi je fais du spectacle, c'est-à-dire que je fais de la scène, je fais des films, des choses qui sont là pour divertir un maximum les gens, pour faire réfléchir aussi les gens, mais j'ai pas envie de créer trop de grisailles.
Mais en tout cas, on en revient au thème de l'émission, parce que pour résister, il faut quand même savoir un peu où on est, quoi, qui on est, malgré tout.
Moi je sais, voilà. Et ce que je présente aussi, c'est pas la même chose que le moi complet, parce que je sais aussi qu'il faut savoir le protéger pour faire face à, voilà, peut-être par exemple de la haine ou de l'affront, des choses comme ça. Quand je dois me battre, eh ben, j'invoque pas mon moi tout entier. Comme ça, j'en protège une partie.
Ah, c'est intéressant. On a eu l'impression souvent que vous aviez une ressource d'amour en fait assez grande pour finalement... Non pas excuser cette haine, c'est pas le sujet, mais quelque part la contextualiser, la relativiser au fond.
La relativiser, absolument. Et ça c'est le public qui me soutient depuis toutes ces années. Et puis aussi, c'est le cœur social, familial, socio-familial. Voilà, ma maman, mes amis, ils font pour beaucoup. Voilà, que les choses se passent bien.
Alors revenons, Bilal Hassani, avant d'arriver à votre film, mais qui touche peut-être à cette esthétique camp. Je rappelle, pour celles et ceux qui n'étaient pas là auparavant, c'est une esthétique de l'outrance, de la posture, une posture assumée comme posture, une posture hyper, quelque chose de drama, quoi, drama queen, on va en parler. Mais pour qu'on comprenne bien, est-ce que pour vous, Dalida est camp ?
Ah, complètement. Ouais. Dalida, c'est mon refuge depuis que je suis tout petit. C'est d'ailleurs Dalida qui a invoqué cette envie en moi d'avoir des longs cheveux.
Ah, c'est vrai?
Oui, c'est elle la première fois. C'est le premier souvenir que j'ai d'une chevelure qui m'intrigue vraiment.
Ah ouais?
Oui, je suis très, 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 très fan de Dalida.
Eh bien, écoutez, on va déjà l'écouter. Alors Dalida, ça vous fait quoi de l'écouter comme ça ?
Ça fait toujours du bien, énormément de bien. Moi, je suis rassurée par ce qu'elle me dit. Et ce qu'elle raconte dans cette chanson, je pense que c'est l'un des titres auxquels je m'identifie le plus.
Ouais.
Voilà, quand on parle de comment on fait pour faire face à... moi, c'est parce que j'ai cette envie de scène qui brûle en moi depuis toujours. Et c'est pour ça que je continue tous les matins.
Et en même temps, elle n'a pas su, elle, trouver cette solidité intérieure que vous évoquiez pour résister à des courants, à des regards d'autrui.
Oui.
Elle a pas su trouver ça non plus.
Non, peut-être pas à la fin. Moi, je réécris l'histoire de Dalida pour me sentir mieux quand j'y pense trop. Mais après, la réalité que je suis pas... je connais pas mon avenir par cœur. Je n'ai aucune idée de comment... est-ce que dans le temps, est-ce que c'est viable peut-être d'être exposé de cette manière-là et tout, et tout. Donc il y a un moment...
Voilà, mais surtout, je corrige ce que j'ai dit. C'est pas nécessairement elle qui a pas su. Mais en tout cas, on voit que vous avez ce souci, très jeune déjà, de trouver un arrimage solide pour, au fond, résister à plein de choses.
Quoi. Exactement. Voilà, ça reste un combat, mais important à mener pour que je puisse continuer d'être... moi, d'une certaine façon.
Même si, et c'était ce qu'on a entendu dans l'extrait de votre album de tout à l'heure, là, Souvenir d'un été, même si je ne connais pas la suite.
Exactement. Je la connais vraiment pas.
It's fine, it's cool. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the
C'était Chapel Roan, Good Luck Baby.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec le chanteur Bilal Hassani sur France Inter, sous le soleil de Platon. Et je remercie Valentine Chaudebois de la programmation musicale, car quand je lui ai dit que je vous recevais, elle m'a dit tout de suite « Passe-lui Chapel Roan, Good Luck Babe ». Visiblement, elle a eu raison.
Merci, j'adore Chapel Roan, donc merci. Ouais. C'est totalement dedans.
C'est camp ou pas, Chapel Roan ?
Hyper, c'est presque du drag, ce qu'elle fait, le persona qu'elle a créé pour son album, du coup. Ouais. La Midwest Princess, c'est une persona, ouais. Il y a tout un maquillage blanc, des gros cheveux, il y a des mégots de clope dans ses cheveux et tout, c'est hyper camp.
Persona, en grec, ça veut dire masque de théâtre, et c'est le mot qui a donné une personne. Donc on revient au thème, hein. En fait, on devient soi en prenant le bon masque, ou alors les bons masques, d'ailleurs.
Oui, ils peuvent être multiples.
Ouais, d'ailleurs, vous avez dit quelque chose de très joli tout à l'heure, que j'aimerais bien qu'on vienne dessus. Vous dites que parfois, quand on ne montre pas tout, aussi quand on est victime de déferlement de haine, c'est pas grave, parce que finalement, ce qui reçoit la haine, c'est simplement ce qu'on a montré de soi. Oui. Et si on n'a pas tout montré, il reste une grande part de soi qui est protégée, au fond.
Ah oui, carrément. Mais je prends beaucoup plaisir à rencontrer des gens qui me disent au bout d'une ou deux heures d'échange « Ah, mais je t'imaginais pas comme ça », ou « Je connaissais pas... » ce toi-là,
ouais,
je disais, oui, voilà, c'est parce que tu ne me connais pas quand tu me regardes, parce que je te montre ce que je veux te montrer.
Ouais, c'est d'ailleurs aussi ce qui se passe souvent dans ce qu'on appelle les relations parasociales.
Bien sûr.
Vous avez par exemple des fans qui sont très familiers avec vous, et puis en fait vous ne les connaissez pas. Et d'ailleurs, ils ne vous connaissent pas tant que ça non plus.
Ils ne me connaissent pas tant que ça non plus, non, c'est vrai. Pas tous. Après, le truc, c'est que moi, je ne suis pas le bon soldat pour le contrôle des relations parasociales, parce que mes fans, je les connais beaucoup.
Ouais.
Pas très bien, mais quand même assez pour entretenir des liens avec.
Vous voulez dire, vous leur écrivez, vous leur répondez.
Oui, ouais. J'aime bien, en fait, parce que je les aime vraiment beaucoup et que je suis un fan aussi.
De Dalida,
de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Ça passe de Michael Prince, Freddy à Beyoncé, Lady Gaga. Ouais. Mais j'ai été fan, j'ai été très fan et j'ai vécu les nuits longues où parfois c'est ce faux lien d'âme qu'on se crée avec notre idole qui nous aide à pas trop angoisser avant de dormir. Et donc du coup, voilà, j'ai toujours été assez attendri par le fan. Alors parfois ça déborde aussi, je fais pas les choses très bien, mais j'aime beaucoup... parler avec eux souvent.
Et puis à l'inverse, quand vous avez été vous-même fan, ou on pourrait dire admirateur, c'est une façon à chaque fois de révéler une part de vous-même. Vous avez montré avec Dalida que finalement les cheveux longs, ça vient peut-être de votre admiration pour Dalida, peut-être avec Beyoncé ou d'autres, il s'est passé d'autres choses.
Plein de choses, ouais.
Ce qui veut quand même dire que pour sortir de soi et s'ouvrir à des parts de soi, on a besoin d'admirer d'autres que soi.
Ah, complètement. Et je pense que pendant les premières années, par exemple, ça se manifeste beaucoup dans les premières années d'exploration artistique je peux le dire, pour plein de copains chanteurs, chanteuses. Quand on commence, on est juste des mièvres copies de nos idoles. Et ensuite, on se trouve un peu. Mais parce qu'au début, il faut des références pour partir. On ne crée pas, on n'est pas Dieu, quoi.
Ouais, d'ailleurs, c'est Aristote qui disait, on apprend d'abord par imitation.
Ouais.
Et quand on a réussi à bien imiter, on trouve sa voix, quoi.
Voilà, exactement.
Toutefois, moi j'ai un problème, alors c'est peut-être le vieux philosophe ringard qui parle, mais avec le mot fan, avec la fanitude.
Ouais.
Est-ce qu'on pourrait pas éliminer ce mot et parler d'admiration ou d'inspiration ? Est-ce que dans fan, il n'y a pas quelque chose de trop figé, de trop régressif, quoi ?
Moi je trouve pas ça régressif, fan. J'aime beaucoup l'idée d'admirer de cette manière-là, parce que c'est intense d'être fan quand même. Je dirais pas que c'est régressif.
Ouais.
C'est peut-être camp d'une certaine façon, parce que c'est très intense. On devient un peu son idole. On a ce truc où et puis j'ai eu des phases. Donc je sais, quand j'ai été fan de certaines choses, parfois ça durait 2-3 ans et mes murs étaient remplis que de ça et de rien d'autre. Il y avait plus de place pour autre chose et j'avais peut-être aimé Beyoncé, mais là je l'aimais plus trop parce que j'étais concentré dans ce truc-là. Donc il y a un truc un peu dans le fanatisme qui est intense. Régressif, je sais pas.
Et puis c'est vrai qu'il y a aussi des communautés de fans qui nourrissent l'œuvre de l'artiste, qui participent maintenant à la création des morceaux.
Ah, voilà. qui font de tout. J'aime beaucoup, moi, écouter la musique en Corée du Sud, et je sais que là-bas, ils ont des jobs presque. Les fans, il y a une hiérarchie, il y a un président du fan café qui s'occupe de tout le truc. Donc, ils sont responsables maintenant, parfois même presque autant que l'artiste.
Bon alors, ok pour la fanitude, mais sans le fanatisme.
Peut-être sans le fanatisme, voilà.
Alors, venons-en à votre film, sûrement qu'il parle un peu de ça. Donc, Les Reines du Drame. Alors là, il y a une histoire d'amour entre deux femmes.
Oui.
Et c'est le YouTuber que vous jouez, donc Stevie Shady, qui raconte, on est en 2055, et qui raconte rétroactivement cette histoire d'amour. Et notamment, bah là, les fans ont joué un mauvais rôle à un moment, parce que les fans ont tiré la pop star vers quelque chose qu'il a un peu perdu. Elle s'est un peu égarée.
Oui.
Le film raconte aussi ça.
Le film, c'est un... Il a un peu une trajectoire de rise and fall un peu classique, ouais, qu'on connaît un peu pour presque toutes les idoles déchues. Il y a ce truc-là où, en fait, on vous met au rang d'icône et puis ensuite, on décide qu'on n'a plus envie de jouer.
Ouais.
Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant dans ce film par rapport à la femme aussi, la place de la femme dans l'industrie, dans les industries, dans tout, sur Terre, en fait. Et là, c'est dans cette belle écrin de l'industrie de la musique pop. Et moi, je joue un fan qui contribue, du coup, à ce lynchage, en fait, un
exactement,
peu de Mimi d'amour.
Un être un peu méchant, jaloux, qui voudrait avoir cette star pour lui, mm-hmm, et qui, quelque part, est jaloux de l'histoire d'amour que cette pop star, entretient avec une chanteuse beaucoup plus punk, beaucoup
bien
plus
sûr,
trash, et qui, du coup, va un peu manœuvrer pour son déclin, c'est ça?
Ouais, un peu. Qui va s'en réjouir, et qui ensuite va devenir une sorte de super vilain à happening horrible pour les pop stars, ouais, féminines. Et voilà, c'est Stevie Shady pour vous. Mais oui, il est très très intense et très très fan.
Et ben, on va écouter un extrait pour essayer de se familiariser avec cette part mauvaise de vous.
Vous ne me reconnaissez pas? Je vais direct vous rafraîchir la mémoire, les moruches. Dans les 2010s, j'étais la plus grosse bitch des internets. Ah ouais, j'ai fait des trucs bien dégueux. Oh. Pire que ma tronche sans highlighter. On m'appelait Stevie Shady. Oh, yeah. Et oui, je faisais la pluie et le botox sur le monde de la musique. Évidemment, je me suis pas fait que des copines. Je détruisais les carrières d'un battement de fossiles. Mais bref, this is not about me.
Bilal Hassani, c'était, oui, Stevie Shady. Pas mal écrit, je faisais la pluie et le botox sur la fame, on pourrait dire.
Oui.
Est-ce que ça vous a autant que l'admiration pour des belles figures comme Dalida, le fait de jouer quelqu'un de méchant, une vipère, jalouse, est-ce que ça vous a révélé aussi à quelque chose de vous-même?
Ah oui, c'est vrai que pendant que j'étais Stevie, il y avait quelque chose, une part de moi qui s'autorisait plus à détester un peu. C'est quelque, ouais, chose que je me laisse pas faire. J'ai l'impression que j'ai pas un os en moi qui a de la haine, mais d'invoquer ça. Stevie, c'est un vrai rôle de composition, c'est 8 mois de préparation quand, ouais, même, que j'ai passé avec lui, du coup, à le trouver, son corps, sa voix, ses idées. Je faisais, on travaillait beaucoup avant la mise en scène, avant d'arriver sur le plateau. Et donc, oui, il y avait ce nerf un peu qu'il fallait que je trouve en moi de rageuse un peu, et ça a été très agréable, en vrai.
Mais d'une certaine manière, est-ce que vous avez peut-être... parce qu'on vit dans une société aussi où, paradoxalement, avec les réseaux, on se retrouve à suivre des gens qu'on déteste, on voudrait lâcher, mais on continue à les détester, et quelque part, on est dans une addiction par rapport à ça. Mm-hmm. Est-ce que, de fait, de jouer cet infâme, j'ai envie de dire, Stevie Shady, ça vous a peut-être permis, quelque part, de mieux comprendre les haters qui ont été contre vous à un moment?
Tellement. Il y a eu, peut-être pas comprendre, mais en tout cas de me rapprocher d'eux un petit peu, et presque de trouver un peu de l'humanité chez des gens que j'arrivais pas à voir. En fait, là où je me dis que peut-être les personnes qui m'aiment pas trop, ils me voient pas comme un humain, moi je les ai jamais considérés comme des humains non plus. C'est-à-dire que je voyais,
ouais,
juste un amas de mots,
masse, ouais,
pas sympas. Et en fait, là, je commençais à mieux comprendre. J'étais en mode, le trajet, quand même, pour arriver à la haine, il est rempli, quand même, de beaucoup d'amour. Et je pense que c'est ce que Stevie incarne. Et je pense que c'est un...
Vous êtes un peu gentil avec Stevie, là, quand même.
Je suis gentil avec
Vous
Stevie, mais...
Vous êtes gentil aussi avec les haters, d'ailleurs.
Et aussi, oui, mais je pense que tous les personnages des Reines du Drame sont des personnages qui aiment mal. Mais ils aiment quand même très fort. Et je sais pas, ça m'a fait comprendre certaines choses un petit peu, ça m'a relaxé aussi sur l'état dans lequel se mettent les gens peut-être parfois pour ne pas m'aimer. Plus, voilà.
Je vous trouve, Bob, le cœur très ouvert, quoi, de penser que les haters vous aiment mal. Mais
il faut partir de, il y a une intention, voilà, qui part de l'amour pour arriver vers vers cet agacement. Je pense que c'est le degré d'intensité qui change un peu la donne et qui fait que voilà, Stevie, il était très très intense. Moi, je suis beaucoup moins intense que Stevie.
Ouais, c'est intéressant.
Et je l'ai trouvé juste trop amoureux de Mimi, quoi. C'est ça que j'ai trouvé en lui. Après, voilà, il fallait que je l'aime parce que c'était que je l'incarnais, voilà. Donc ça ne veut pas dire que je traduis ça sur toutes les personnes qui me détestent dans la vie, mais il y a eu des moments, voilà, de contact un peu où je me disais, ah, c'est vrai que il y a un peu d'amour quand même.
Ouais, c'est très intéressant ce que vous dites. C'est assez nietzschéen d'ailleurs. Nietzsche qui disait, il n'y a pas d'un côté, il n'y a pas une différence de nature entre la haine et l'amour. Mm-hmm. Il y aurait peut-être une différence de degré. C'est un peu ce que vous avez dit. À un moment, on n'aime pas assez, ça devient de la détestation. Ou alors on aime trop et peut-être on aime mal et ça peut se changer en haine. Mais bon, de toute façon, on tourne rond parce que aimer mal, c'est pas vraiment aimer.
Non, pas vraiment.
Je voudrais qu'on finisse l'émission, Bilal, sur la notion de fierté. Au fond, on est fier de quoi ? On est fier de ce qu'on est. Ou on est fier de ce qu'on a fait ?
Je pense que je suis plus fier de ce que j'arrive à faire avec la personne que je suis.
Ouais. Ah oui, c'est joli.
Voilà. Que juste de moi tout court. J'arrive avec les outils qu'on m'a donnés dans ma petite boîte quand je suis né à construire des jolies choses. Et je pense que...
Avec les différentes parts de vous-même que vous avez évoquées.
Voilà, avec toutes les parts de moi-même. Et je pense qu'on est tous avec un sorte de champ et on peut faire tout ce qu'on peut. Et puis voilà, la météo, elle sera peut-être clémente avec le voisin et moi avec nous. Et on va traverser des périodes. Mais voilà, si on arrive à faire nos petits fruits, nos petits légumes, c'est super.
Ouais, c'est joli, je suis fier, vous avez bien dépassé l'opposition, une bonne synthèse hegelienne, pas fier de ce que vous êtes, ni de ce que vous avez fait, mais fier de ce que vous avez fait à partir de ce qu'on vous a donné au départ.
Voilà.
Alors on est le 31 décembre,
yes.
Si on essayait de résumer de quoi vous pourriez être fier cette année, voilà.
Mais je suis fier d'avoir pu oser le cinéma, parce que je pense que c'est quelque chose qui me faisait très peur, mais que j'avais très envie de faire, parce que quand on parle de masque, de persona, incarner un rôle, c'est aussi mettre un autre masque. Le degré de colle qu'on met sur le visage, il est un peu différent, mais c'est pas très loin de ce que je fais tous les jours dans mon métier de chanteur. Donc voilà, j'étais très content de pouvoir entamer cette nouvelle... ce nouveau chapitre.
Et d'ailleurs, vous poursuivez, parce qu'en 2025, vous êtes à l'affiche d'un autre film,
oui.
Nino dans la nuit. Merci beaucoup,
merci.
Bilal Hassani, de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon, qui a été plutôt celui de Nietzsche, grâce à vous, et de Dalida, heureusement. Pour vous remercier de nous avoir accompagnés ce matin, je voudrais dégager votre philosophie de la vie, telle qu'elle est apparue, comme je le fais pour chaque invité. Alors, au début, elle était très camp, l'outrance, l'hyper, le fait de souligner une posture d'arrondi, se camper, mais pas camper sur sa position, bouger, le mouvement, l'outrance dans le mouvement. Et puis au fur et à mesure, je crois que ce qui a surgi, c'est quelque chose de plus authentique, presque de plus discret, comme la vérité d'une personnalité qui se cherche et qui essaye de sortir de l'outrance finalement. On imagine que peut-être l'outrance, les masques, auront été pour vous, comme pour beaucoup d'entre nous d'ailleurs, une manière de se rapprocher de soi, de ce qui compte pour soi. Et c'est pourquoi nous vous retrouvons à l'Hyper Weekend Festival de la Maison de la Radio pour un moment d'une heure de piano-voix intimiste. Merci beaucoup, Bilal.
Merci.
Cette émission a été préparée par Audrey Carme et Laura Dumez avec la participation exceptionnelle de Thomas Cabianca, à la programmation musicale Valentine Chaudebois. L'émission a été réalisée par Antoine Larcher avec à la technique Guillaume Roux.